France Culture.
Merci Sandra Onana. Dressé pour tuer de Samuel Fuller, c'est en DVD et en Blu-ray chez ESC Éditions. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Raymond Elboui, Nicolas Mathias, Ludovic Auger et Mineta Diawara. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.
France Culture.
Une heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale.
Zoé Svez.
On se retrouve donc chaque samedi pour une émission toujours libre de tous les genres, de tous les récits, de tous les portraits, des grandes voix aux genres inconnus, des métiers cachés aux albums cultes, un récit toujours subjectif et non exhaustif avec un maître mot, le plaisir.
La série musicale. Chaque samedi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Chicago 1951. Carl Baumann est un ancien para et un détective privé raté dont le quotidien oscille entre des affaires d'épouse cocufiée et sa flasque de whisky. Mais le passé ressurgit.
Quand une radio militaire muette depuis la fin de la guerre se met à émettre juste après votre dernière cuite, vous êtes barge
Alpha
et vous répondez à l'appel.
L'affaire Baumann, écrit par Zéphir Yel et Nicolas Henry, réalisation Laurence Courtois, à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
La semaine prochaine, Plan Large fêtera les 100 ans de Robert Altman avec une réécoute de l'émission que nous lui avions consacrée en juin 2019. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Tout de suite, c'est Mathias Sénard et sa conversation littéraire en direct et en public du Festival du Livre de Paris.
Merci Antoine. Bonjour à toutes et à tous et c'est parti pour la conversation littéraire en direct du Festival du Livre.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre conversation littéraire. Aujourd'hui, une conversation depuis le Festival du Livre de Paris au Grand Palais. Festival dont le pays invité est cette année le Maroc. L'occasion de rencontrer deux auteurs et une autrice marocaine, j'ai nommé Maï Binbin, Driss Xikès et Hajar Hazel. Bonjour Hajar Hazel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous aviez publié un premier roman intitulé « L'envers de l'été » aux éditions Gallimard il y a quelques semaines et paru votre second roman, toujours chez Gallimard, intitulé « Le sens de la fuite ». Et bonjour Driss Xikès.
Bonjour.
Driss Xikès, vous êtes chercheur et écrivain, dramaturge. Votre dernière pièce intitulée « L'Agence nationale du bonheur » est parue l'année dernière et votre dernier roman « Texture du chaos » est paru aux éditions du Fenech. Et bonjour Maï Binbin.
Bonjour.
Maï Binbin, vous êtes peintre, sculpteur et romancier, auteur de 12 romans, dont le premier, Le sommeil de l'esclave, est paru aux éditions Stock en 1992 et en janvier dernier est paru aux éditions Robert Laffont, La nuit nous emportera. Roman dont un des personnages principaux est la ville de Marrakech. Et je voudrais qu'on commence par là, Maï Binbin, par Marrakech. Dont votre description ne correspond peut-être pas à l'image qu'on peut en avoir.
Eh bien, moi, je suis né au fin fond de la médina de Marrakech. Et c'est pas. Marrakech, c'est. Tous mes romans commencent dans cette rue de la médina où j'ai grandi avec une mère secrétaire qui élevait seule ses 7 enfants et pauvre. Et qui nous a appris à être meilleurs. Et c'est pour ça que ce dernier roman, La nuit nous emportera, j'ai voulu rendre hommage et à la ville et à ma mère.
Alors ce monde est vu par les yeux d'un enfant. Le roman s'ouvre sur la voix d'un narrateur enfant, Sami, dernier né d'une fratrie qui grandit dans cette médina. Une maison pleine de voix, de conflits, de gestes, d'amour et de dureté. Et on a l'impression, Marie-Bémine, que vous creusez, que vous travaillez un peu toujours cette matière, justement, de Marrakech, d'une façon différente de roman en roman, mais que la glaise ou la matière ou le marbre en est un peu toujours le même.
Oui, et puis aussi, je viens d'une famille assez curieuse. C'est-à-dire, mon père a été le bouffon du roi Hassan II pendant 33 ans. Et mon frère a participé au coup d'état de Skhirat en 71. Je veux dire, je n'ai pas volé mon métier d'écrivain. On me l'a offert sur un plateau. Et donc, ma mère, au milieu de cette affaire, entre mon frère, qui a été embastillé dans un mouroir qui s'appelle Tazmamart, on a mis des gens sous terre dans le noir pendant 18 ans, et mon père qui était au palais. Donc, j'avais envie de raconter l'histoire de cette femme au milieu de cette tragédie.
Mais Marie-Bémine, c'est La Nuit nous emportera, c'est un roman, justement, il y a un espace pour la fiction. Et où se trouve-t-il? Comment est-ce que vous travaillez, justement, à partir de ces souvenirs?
Moi, c'est un petit garçon frileux qui est dans cette ruelle de la Médina. Et il y a des choses qui se passent autour de lui. Il ne sait pas trop ce qui se passe. Il entend à la radio des gens qui ont fait un coup d'État. Il voit sa mère. Il y a une grand-mère absolument magnifique qui s'appelle Maman du Bled et qui va l'emmener vivre dans la campagne pendant quelques années. Une grand-mère qui voulait une fille. Elle voulait décharger ma mère de l'un de ses enfants et qui m'emmène, moi, quand j'avais 2 ans. Et donc, je passe 2 ans à 100 kilomètres de Marrakech, dans une ferme. Et voilà, donc, tout le roman, c'est ce petit garçon qui observe. Il ne sait pas trop ce qui lui arrive. Et la grand-mère, évidemment, elle voulait une fille. Elle ne voulait pas un garçon. Donc, elle m'a fait pousser mes cheveux. Elle m'a habillé en fille. Et elle m'a changé de prénom. Et voilà, donc quand je dis je n'ai pas volé mon métier, c'est vraiment vrai. Hein.
Donc Marie-Bémine, à peu près tout ce qui arrive au jeune narrateur de La Nuit nous emportera est autobiographique.
Pratiquement 90% des histoires sont réelles. Et puis j'avais surtout envie de rendre hommage à cette femme qui est un peu ma boussole, et qui à 40 ans s'est mise à faire des études parce que elle s'est retrouvée seule avec ses 7 enfants et elle s'est mise à faire des études. Elle n'avait pas le baccalauréat. Elle a fait 2 années de capacité en droit, puis l'université. Et vraiment, petit à petit, elle est devenue chef de service et elle nous a dit à tous les 7, vous n'avez pas le droit de vous planter. Il va falloir réussir. Non seulement réussir, mais il va falloir être le premier de la classe. Et toute ma vie, j'ai été le premier de la classe. Et je ne suis pas le seul. Mes trois sœurs sont professeurs à l'université. J'ai un frère qui a fait une fortune aux États-Unis. Et même celui qui avait la prison, il avait la meilleure prison du monde, c'est Tazmamart. C'est-à-dire 18 ans dans le noir. C'est-à-dire presque de la concurrence au camp nazi. Non. Ma mère nous a insufflé un peu cette envie d'être les meilleurs.
Marie-Bémine, il y a aussi quelque chose d'extrêmement violent quand même, vous en parlez avec beaucoup de joie, on l'entend, mais c'est aussi, et notamment dans cet épisode de La Vie à la campagne ou après, c'est aussi un combat constant, extrêmement dur, parfois même très violent physiquement, qui se joue dans ces premières années.
Ah oui, il y a des scènes, et j'ai attendu le 13e roman pour peut-être parler de cette intimité, un peu des choses très difficiles. Mais je ne vais pas les tout raconter parce qu'il faut lire, il faut lire le roman. Mais il y a des scènes vraiment. Un jour où elle a soupçonné un berger de m'avoir violée et elle va m'enlever ma culotte devant tout le monde. Elle va fouiller mon anus pour voir s'il y a du sang. Et ça, c'était beaucoup plus violent que le viol et qu'il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de viol. Mais disons, voilà, j'ai vécu des histoires absolument incroyables. Et dans La Nuit nous emportera, je relate un peu cette période de ma vie à 65 ans.
Revenons un peu justement aux femmes aussi, si vous le voulez bien, Marie-Bémine, parce que c'est aussi un monde féminin, un hommage à ces femmes. dans l'exemple de ce combat pour l'apprentissage, qui est absolument exemplaire, la puissance de, du savoir, finalement, dans ce monde.
Moi, j'ai été élevée par les femmes. J'ai vraiment été entourée de femmes et j'ai trois filles. Je ne sais pas faire les garçons. Mais disons que j'ai grandi dans un monde où il y a eu des femmes fortes. Mon père, d'ailleurs, s'est barré quand j'avais 3 ans, donc je ne l'ai pas connu. Je l'ai rencontré à la sortie de mon frère du bagne. Quand mon frère est sorti du bagne, il a voulu voir mon père, que je n'avais pas vu, parce que pour garder son emploi auprès de Hassan II, il a dû renier publiquement son fils. Et quand il sort de Tazmamalt, évidemment, quand il est sorti, c'était une loque humaine. Il pesait 35 kilos, il avait les yeux enfoncés dans les orbites. C'était une petite chose qu'on nous a ramené à la maison. D'ailleurs, ma mère, elle pensait qu'on lui avait changé son gosse. Elle le regardait, elle voulait chercher un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Et donc, j'ai vécu un peu aussi cette période. J'ai pas volé mon métier. Donc, j'ai vécu cette période où il recréait la cellule dans une pièce. Il s'enfermait dans le noir et il restait enfermé là pendant des heures et des heures. Et il y avait ma mère de temps en temps qui entrait dans cette chambre et elle s'asseyait à côté de lui et elle l'écoutait. Je sais pas ce qu'il se disait.
Marie-Bibine, la nuit nous emportera, c'est aussi une forme de mémoire écrite, des saveurs, des odeurs très, très physiques aussi. Est-ce que pour vous, écrire par rapport à la peinture, c'est justement entretenir un monde sensible d'une façon très différente ?
Mais Marrakech, moi, je suis peintre, j'ai aucun mérite, parce que je suis né dans une ville rouge. Tous les murs sont rouges et c'est une ville de légende. À Marrakech, on ne dit pas que la ville est rouge parce qu'il y a des peintres en bâtiment qui ont peint les façades. À Marrakech, on dit le jour où on a planté la Koutoubia au cœur de la ville, elle a tellement saigné que tous les murs sont devenus rouges. Voilà, Marrakech, c'est ça, c'est le conte, c'est évidemment tous les matins, en allant à l'école, je passais par la place Jemaa el Fna. Et là, c'est les bruits, c'est les odeurs, c'est les parfums. Enfin, Marrakech, c'est la plus belle ville du monde. Je suis.
Mais pourtant, le Maroc que vous décrivez, enfin Marrakech tel que vous la décrivez dans le roman, c'est pas touristique. C'est beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel. C'est pas un beau paysage, une belle photographie pour faire venir les Français.
Mais parce que je ne suis pas un touriste, je suis un enfant de la ville. J'ai grandi dans cette ville et je l'ai quitté pendant 23 ans. Je me suis installé à Paris pendant 17 ans, à New York pendant 5 ans ou 6 ans. Et donc, quand on s'éloigne de sa propre ville, on la voit mieux. D'ailleurs, tous les romans que j'ai écrits sur le Maroc, je les ai écrits à New York, ou à Paris, ou à Madrid. Et donc, je regarde ce pays avec des yeux amoureux d'un local à qui qu'on a éloigné un peu de sa ville. Mais maintenant, je suis revenu, je me suis réinstallé à Marrakech et je suis très content d'y être.
Les yeux amoureux, malgré justement toute la violence de cette histoire, on vient de l'entendre.
Mais cette histoire, en tant que écrivain, et les écrivains se nourrissent un peu, c'est comme des vampires. ils avalent cette douleur, ils la passent par des canaux de sensibilité et ils la ressortent sous forme de fumerolles, de poèmes, de pièces de théâtre, de romans, voilà.
Et pour vous, justement, Marie-Bébine, qu'est-ce que peut le roman, le récit au plus intime que la peinture ne peut pas? Pourquoi est-ce que vous choisissez de conserver toujours les deux, trois, enfin plusieurs médiums différents?
Avec les livres, je ne gagne pas ma vie, mais avec la peinture, oui.
Donc, non, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même autre chose.
Il n'y a pas que ça. Non, il y a des... Je peux écrire, mais de temps en temps, je n'arrive pas à tout dire. Et quand je suis dans la solitude de mon atelier, quand je suis entouré de matière, et j'ai l'impression que ça me soulage davantage. Évidemment, il y a un lien entre les deux. Quand je passe mes matinées de 6 heures du matin à midi à écrire, quand je rentre dans l'atelier, J'ai encore les personnages plein la tête. Ils sont là. Quand j'écris sur l'immigration clandestine, je peins des barques l'après-midi. Quand je parle de l'arbitraire du pouvoir, j'ai des personnages ligotés, endoloris, cassés en deux, etc. Donc voilà, c'est un tout.
Et Marie Benoît, vous êtes aussi engagée socialement. Vous avez créé un réseau de centres culturels très spéciaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose ?
Alors, en rentrant au Maroc en 2002, je suis rentré au Maroc en 2002. Pourquoi ? Déjà parce que j'ai vu Le Pen au deuxième tour de l'élection française. Je me suis dit, c'est plus un pays pour moi. Et je suis parti sur un coup de tête. Hassan II était mort, le pays était en train de se démocratiser. Je me dis, je vais essayer de gérer mes propres extrémistes. Et en 2003, il y a eu les attentats de Casablanca. 14 jeunes sont sortis d'un bidonville et ils ont fait un carnage dans toute la ville. 45 morts sans blessés graves. Ça a été absolument l'horreur. Et donc, j'ai écrit un livre. Je me suis rendu dans ce bidonville que je ne voyais pas. C'est 400 000 personnes à la banlieue de Casa et qui vivaient dans un cloaque inimaginable. Et donc, je me suis rendu plusieurs fois dans le bidonville. J'ai rencontré les jeunes, j'ai rencontré les associations. Et j'ai écrit un roman qui s'appelle « Les étoiles » de Sidi Moumen, où pour essayer de comprendre ce qui nous arrivait. Parce que nous, on pensait qu'on était immunisés contre le terrorisme, qu'on n'était pas concernés. Et donc, j'ai écrit « Comment on devient une bombe humaine ?» C'est un livre qui était chez Flammarion, qui a très bien fonctionné, qui est devenu un film, « Les chevaux de Dieu » par un cinéaste, Nabil Ayouch. Et c'est vrai que...
Et aujourd'hui, d'ailleurs, disponible en poche, ouais, le roman...
Et le livre a très bien fonctionné, parce qu'il y a eu 15 traductions, le film a été primé à Cannes, c'est-à-dire on a gagné plein de fric sur la misère. C'est dit peut-être qu'ils vont rendre. Et là, on a ouvert un premier centre culturel à Casablanca, dans le bidonville. C'est pas gagné d'avance, hein, parce que à côté, il y avait ceux qui prônaient la culture de la mort. Et nous étions là à dire aux gamins, on est là pour vous apprendre la culture de la vie. C'est-à-dire hip-hop, cinéma, théâtre, musique, photographie. Et on a eu 1000 enfants en 2 mois, il y a eu 1000 enfants inscrits. Et là, on s'est dit, mais mon Dieu, on va pas s'arrêter là. Et aujourd'hui, il y a 8 centres dans tous les bidonvilles, dans toutes les villes. Et dans chaque centre, il y a 1000 gamins. Et on est très, très, très contents. Comme quoi, la littérature sert à quelque chose.
Et Marie-Bédemie, justement, est-ce que dans les romans qui ont suivi... Et dans La nuit nous emportera, est-ce que vous pensez à ça justement quand vous écrivez, à l'heure d'écrire, au destin politique entre guillemets, ou en tout cas social, d'un texte?
Vous savez, en Afrique, on n'a pas trop le temps de se gratter le nombril. On ne sait pas faire. On a des problèmes beaucoup plus sérieux que les états d'âme, etc. Donc l'écrivain se sent investi d'une mission Don Quichotesque, de redresseur de tort, hein, n'est-ce pas, Driss? N'est-ce pas, mademoiselle? Mais vraiment, on a l'impression qu'on a une mission à accomplir et on se bat pour l'accomplir.
Et pourquoi Don Quichotesque, alors?
Mais parce que ma vie, c'est déjà... C'est Shakespeare, même. On a l'impression que on est sur un cheval avec une épée et on croit aux chimères comme... Voilà, donc et on a envie, on croit qu'on va pouvoir changer les choses et on les change. C'est pas qu'on les change.
Et Marie-Bimbine, La nuit nous emportera. Il y a aussi quand même le titre, dans le titre, quelque chose de triste et définitif, un peu comme un constat qui veut que, voilà, finalement, nous finirons tous emportés par la nuit. Est-ce que c'est pas un peu en contradiction avec justement tout cet espoir dont vous nous parlez à présent?
Mais parce que les deux premières années, les détenus les militaires qui ont participé au coup d'État, les deux premières années, ils étaient dans une prison régulière à Kenitra. Donc tous les jeudis, avec ma mère, elle prenait un panier, elle mettait son poulet, qu'ils allaient évidemment désosser et qu'ils allaient détruire. Et il y avait le panier, et tous les jeudis, on prenait l'autocar et on allait à Kenitra. Et un jour, on est arrivé avec ma mère et ils nous ont dit, mais cet enfant n'est pas là, cet enfant n'a jamais été là. Et soudain, il a disparu. Et alors, elle a continué à y aller pendant des mois et des mois avec son panier. C'est-à-dire, on se privait, elle privait les autres de nourriture pour lui donner, pour lui apporter un panier pour l'absent. Et elle revenait, elle distribuait aux pauvres, évidemment, parce que il était jusqu'au jour où on lui a dit, jusqu'au jour où elle a renoncé à ses voyages à Kenitra. Mais même en revenant, quand on était à table, elle lui mettait toujours sa part de côté au cas où il rentrerait par hasard, etc. Voilà, donc c'est un peu la nuit. Hein.
Oui, mais Marie Belmine, justement, quand on sort de cette nuit, est-ce que c'est pas l'amour tel que vous le rendez, en tout cas dans l'écriture, qui permet d'aller vers l'avenir et d'envisager un futur, même socialement commun, qui va vers le mieux?
Oui, bien sûr. Mais ma mère nous a appris à aimer la vie. Moi, c'était pas triste chez moi. C'était l'absence était omniprésente, mais c'était joyeux. Moi, La Nuit nous emportera est un livre où on rit beaucoup. Il y a beaucoup de noirceur, mais il y a beaucoup d'humour aussi.
Oui, on l'entend quand on vous entend rire. Driss Xekes, alors vous êtes plus Casablanca que Marrakech, et on va se déplacer un peu. Vous êtes écrivain, dramaturge, chercheur et journaliste. Vous avez été rédacteur en chef du magazine Tel Quel, aujourd'hui directeur de Economia, centre de recherche à Rabat. Vous avez publié des romans, des essais, du théâtre. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur votre dernier roman publié, si je ne me trompe pas, L'extexture du chaos, et qui, comme Marie Benbin s'intéresse à Marrakech, puis revient sur votre Casablanca et une plongée aussi dans la réalité d'aujourd'hui, l'évolution de la ville et votre mémoire de Casablanca.
À vrai dire, je n'ai jamais cessé d'écrire sur Casablanca. Déjà dans mon premier roman, Ma boîte noire, Casablanca était là. Au détroit d'Averroès, elle était là. Mais à chaque fois, elle était un élément dans un ensemble construit. Mais pendant très très longtemps, je me disais, j'aimerais bien un jour, non pas écrire sur Casablanca, mais écrire un roman qui ressemblerait à une ville, et qui serait ma ville, Casablanca. Et pour arriver à écrire ce roman, il y a eu deux choses qui m'ont marqué. La première chose, c'est que je suis allé un jour chercher l'école primaire où j'ai fait mes études, qui est une école construite par les nationalistes dans les années 30. Il y a très peu d'écoles comme ça au Maroc, et je trouve qu'elle n'existe plus. Donc une école qui normalement devait être une sorte de patrimoine n'existe plus. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai fait le lycée Moulay Abdallah, et j'avais un prof d'anglais qui était un marxiste-léniniste. Et souvent, en sortant du lycée, on nous dit « Bon, aujourd'hui, vous n'avez pas cours parce qu'il y a une coccinelle blanche qui est passée et qui l'a transportée, et il ne revient qu'un mois plus tard. » En fait, on l'a emmené dans une prison de Mboulay Chérif. Donc en fait, moi, c'est en même temps une ville qui tourne le dos au savoir, et une ville qui, après les émeutes de 65 et de 81, est devenue une ville très sécuritaire. Ce sont ces deux éléments qui étaient restés comme ça. Et puis après, bon, il fallait construire un roman, et donc je me suis mis au travail.
Et vous écrivez, Driss Xekes, les gens ici aiment oublier le chaos. Ils aiment le prendre pour un mauvais souvenir ou un cauchemar éclair.
Casablanca est une ville qui tourne le dos à sa mémoire. C'est une ville, d'abord, qui a été plusieurs fois rebâtie depuis le 15e siècle. Sauf que La ville qu'on connaît aujourd'hui, elle date de 1907 avec la construction du port de Casablanca. Mais c'est une ville qui s'est étendue avec une vitesse phénoménale. Aujourd'hui, c'est une métropole incroyable. Et c'est une ville qui est la première ville où il y a eu une population ouvrière, les bidonvilles. Donc c'est une ville qui est une ville laboratoire. On a construit le laboratoire de l'art déco, laboratoire des bidonvilles. Et après, on a un laboratoire sécuritaire dans lequel on a parqué les gens, d'où Sidi Moumen, qui est un des lieux où on a parqué les gens. Donc, elle a, au fur et à mesure, on a fait cela. Mais ce sont des couches superposées, mais il n'y a pas de mémoire de la violence qui traverse cette ville. Et l'idée, c'est qu'on sait que c'est une ville qui est chaotique, mais en même temps, on préfère l'oublier pour pouvoir vivre. Enfin, c'est une sorte de résilience, d'une certaine manière.
C'est qu'est-ce pour vous la ville Casablanca, c'est un terrain d'écriture, mais vous la vivez un peu comme un observateur, comme si finalement il fallait l'écrire pour qu'elle existe, une certaine forme de description comme vous le faites, de dire ah si je ne l'écris pas personne ne saura cela. C'est ce qu'on a l'impression que vous le répétez à plusieurs reprises dans le roman, comme si les gens de Casablanca n'avaient pas accès forcément à cette mémoire.
Je pense, moi s'il y a un ou deux écrivains qui m'ont marqué sur le rapport à la ville, c'est quelqu'un comme Thomas Pynchon ou quelqu'un comme Paul Auster ou des gens qui croient que l'imaginaire n'est pas un adjuvant au réel. C'est l'imaginaire qui construit le réel. Et pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a un déficit de mémoire, lorsque la mémoire n'est pas organisée, n'est pas... Eh bien, à un moment donné, il faut faire une construction, il faut faire un artefact. Et donc, l'écriture devient un artefact qui permet de faire une sorte de collage, de montage, de plein de choses pour qu'on puisse reconstituer les éléments de cette ville qui sont épars. Et d'où le personnage qui est une sorte de deuxième narrateur dans le roman, qui est un enseignant de géographie à la retraite, qui est un lecteur et qui devient conteur, qui devient comme un conteur, qui aide les gens à recoller les morceaux, parce que effectivement, c'est comme disait Chinua Achebe, c'est things fall apart. Les choses sont vraiment, c'est des éléments épars et il faut quelque part les coller ensemble pour que ils fassent un ensemble.
Justement, vous écrivez, l'écrivain est l'archiviste officiel du chaos.
Je pense que tous les écrivains et tous les artistes ont à gérer le chaos. Et tout le travail de l'artiste est de trouver un mode d'organisation du chaos. Que ce soit le chaos intérieur qu'il ressent lui-même, ou le chaos extérieur qu'il essaie de capter et pour lequel il cherche tout le temps une forme. L'écriture, la création et la recherche d'une forme qui donne la possibilité d'organiser le chaos, qu'il soit intérieur ou extérieur.
Alors il y a différents quartiers de Casablanca qui sont décrits. Il y en a certains qui vous fascinent parce que justement ils rejoignent ce côté extrêmement contemporain de la transformation de la ville avec son passé le plus profond.
Alors juste pour ne pas trop en dire et en même temps expliquer, je vais donner deux exemples. Il y a ce lycée, le collège de l'univers. On trouve qu'il a une sorte de tunnel souterrain et on se rend compte que beaucoup de gens qui ont disparu après les émeutes de 81 ont été enterrés dans ce tunnel. Donc du coup on démolit le collège. Donc ça c'est quelque chose qui est au centre-ville. Et le centre-ville aujourd'hui d'ailleurs, c'est prémonitoire ce que j'ai écrit, on est en train aujourd'hui de détruire le centre-ville historique pour le rendre un peu plus vintage, un peu plus contemporain, un peu dubaïesque. Et deux, il y a ce quartier très très éloigné, qui est encore plus éloigné que Sidi Moumen, qui s'appelle la Cité. Mais c'est de l'ironie, parce que là-dedans vivent des gens qui sont des déclassés de l'école, des gens qui sont la plupart des hackers, et qui ont une maladie, ce que j'appelle la tumeur numérique incompressible, parce qu'ils ont les yeux abîmés, parce qu'ils travaillent quasiment 18 heures sur les écrans. Et ces deux lieux qui sont un lieu, le centre-ville, est un lieu très, très excentré. Il raconte d'une certaine manière la déchéance d'une ville qui est une ville de commerçants, mais pas une ville de savoir et de culture. Et le fait que le commerce, le deal, etc., prennent le pas, eh ben, il a des effets aujourd'hui sur ce qui serait une sorte de dystopie que j'essaie de dessiner.
Alors, dans cette dystopie casablancaise, il y a aussi une question d'une forme de religiosité un peu 2.0. Et vous écrivez: l'artiste a déjà noté que le paysage des rues ombragées de son quartier s'est transformé depuis qu'une nuée de bourgeois néo-soufis s'est établie autour d'un ancien chanteur reconverti en muezzin irrésistible. C'est assez mordant comme ironie sur la de fausse religiosité qui s'établit quand même à partir de l'artiste.
Vous savez, c'est un Casablanca postmoderne, hypermoderne, ouais, dans lequel vous avez une superposition de temporalité et de mode de vie. Vous avez la précarité la plus absolue, vous avez la richesse la plus ostentatoire, et entre les deux, vous avez cette nouvelle forme de religiosité que j'appelle les néo-soufis, les nouveaux bourgeois qui se constituent, et en même temps, vous avez une corruption incroyable qui traverse la ville, etc. Mais aussi des personnages qui essaient de creuser pour comprendre, d'essayer de garder un peu de sens de tout ça, mais ils sont les plus marginaux de la.
Alors, ceux qui essayent de creuser tombent sur des ruines, parce qu'évidemment, on est toujours un peu assis, on construit toujours sur les ruines qu'on ne veut pas voir. Donc, il y a des ruines très réelles qui sont celles de la ville d'autrefois, celle qui a été détruite par les Almohades. Vous racontez il y a bien longtemps. Et puis, il y a la ville des émeutes, et notamment de ces émeutes du pain de 1981, qui est vraiment pour vous un des moments tournants de l'histoire de la ville.
Ben oui, évidemment, parce que il faut bien se repositionner en 81. 81, c'est effectivement les émeutes du pain qui sont matées dans le sang. Quand il y a eu 20 ans plus tard l'instance équité réconciliation, on a enfin redécouvert les charniers des gens qui ont été abattus à l'occasion. Donc il faut moi j'ai la mémoire, j'étais jeune, j'avais 13-14 ans et je voyais on brûlait les voitures etc. dans les quartiers populaires. Donc c'est quelque chose qui a marqué l'imaginaire collectif de Casablanca, mais surtout tout le quadrillage de Casablanca s'est fait post-81. Tout le quadrillage s'est fait post-81, mais c'est un quadrillage qui s'est fait au détriment du développement des lieux de culture, des lieux de savoir, des lieux d'échange, et on est allé vers une nouvelle conception de l'espace public. Et tout ça est né après 81. Sachant qu'il y a 65 derrière, et je rappelle que Hassan II tient un discours au moment où Bourguiba en Tunisie table sur l'école, Hassan II dit: je suis prêt à sacrifier le un tiers de la population si l'école en fait des rebelles.
Dans ces caisses, on apprend aussi le pourquoi. Vous racontez une légende qui raconte l'origine du nom Casablanca. Donc, la blanche, Dar el Beda, la femme blanche. Alors, vous la décrivez blanche de peau, mais quand même libertaire, désinhibée, qui trônait sur les vestiges de la ville comme lieu de luxure et de divertissement. Et puis vient le saint qui vient du désert et qui la voile. C'est magnifique cette interprétation du mythe.
Tout à fait. Et le personnage, c'est un peintre, c'est Bouchaïb Rih, qui a essayé de reconstituer ce mythe originel de cette rencontre entre la luxure et la sainteté qui fait de cette ville une ville métisse, une ville hybride. Cet artiste peintre là, Bouchaïb Rih, qui n'était pas dans la mode initiale de l'école de Casablanca, il a été marginalisé parce que la mode n'était pas au figuratif à l'époque, et je trouvais intéressant de rejouer aussi sur ces modes qui traversent les villes aussi de cette manière.
Vous êtes aussi dramaturge. Et votre dernière pièce, intitulée L'Agence nationale du bonheur, parue l'année dernière, sera représentée bientôt le 16 avril 2025 à Rabat, au théâtre Gérard Philippe de l'Institut français. Et ce sont deux activités qui sont sans doute extrêmement différentes. D'abord, dans l'usage de la langue, dans la façon dont on s'adresse à un public et de la possibilité de se présenter quasiment directement face à nous, alors que le roman suppose qu'on l'obtienne, qu'on l'achète et qu'on l'ouvre.
Oui, alors moi je suis venu à l'écriture par le théâtre depuis un peu plus de 30 ans. À vrai dire, moi je considère que l'écriture théâtrale est une écriture en suspens. Elle est toujours en attente d'une physicalité, d'une oralité, d'une énergie. Parce que le théâtre est énergie et n'est pas que discours. Il a besoin de cette corporéité qui lui fait advenir le texte. Et donc, il faut faire très attention à la question de l'oralité dans l'écriture. Il faut faire très attention à la question du rythme. Moi, je suis un amoureux de Beckett. Et Beckett, dans une de ses lettres, il expliquait qu'il fallait donner la même place aux mots et au silence. C'est un point. Le silence pour le lecteur du roman est un silence très subjectif. Et la manière avec laquelle il va scander le texte n'est pas du tout le même. Et moi, j'ai toujours en tête cette image de Beckett qui était, je le rappelle, au début, le secrétaire de Joyce. Et il était admiratif de Joyce, le romancier. Mais quand il a voulu, lui, écrire le roman, il a écrit de manière plus économe. Quand il a écrit Molloy, etc. Et la question de qu'est-ce que ça veut dire écrire du roman lorsqu'on vient du théâtre est pour moi une question très intéressante. On a peur de l'errance. Les dramaturges, en général, quand ils écrivent de romans, ils ont peur de l'errance. Et donc, ils cherchent à tricher avec la question de la prosodie pour trouver un moyen de dire les choses.
Mais Drességuet, c'est aussi quelque chose d'immédiatement politique, peut-être, dans le théâtre, parce que justement, on peut parler réellement la langue de ceux qui sont devant vous. Est-ce que, par exemple, le rapport au dialecte marocain, au Darija, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous importe ?
Énormément, énormément. Ma pièce Il Houa, qui a eu des prix, qui a beaucoup circulé, a été jouée en Darija et en français. C'était pour moi fondamental de. C'est une pièce sur l'impossibilité de se révolter, de personnages qui ont le dos courbé, qui sont des utériens, ils habitent l'utérus de la terre, et ils veulent devenir des terriens. Et je pensais que c'est une pièce absurde. La force du théâtre, c'est que la métaphore, lorsqu'elle devient une image qui tout de suite fait tilt dans l'esprit des gens, et bien tout de suite, elle a une réalité. Ça, on ne peut pas avoir le même rapport à cela dans l'écriture du roman. La métaphore, elle fait un autre voyage.
Et est-ce que la jeunesse à Casablanca ou ailleurs au Maroc s'empare de vos textes? Et est-ce que vous travaillez justement avec des, comme le fait Marie Benbin par exemple, dans des centres culturels pour faire vivre les textes d'aujourd'hui?
Moi, je pense qu'avec Marie, on est quelques-uns à être un peu. Moi, j'aime beaucoup cette formule de Sonny Labotansi. Il dit : je suis pas un écrivain engagé, je suis un homme engageant. Je pense qu'on se bat pour engager les gens à prendre conscience qu'ils sont des citoyens, à prendre conscience qu'ils ont quelque chose à apporter à la cité. Moi, je le fais en travaillant sur la philosophie, sur le théâtre, avec des artistes, avec des jeunes citoyens. Je le fais dans les rendez-vous de la philo, je le fais de plusieurs manières. Pour moi, la question dans nos sociétés, chez nous au Maroc, c'est comment créer un désir de liberté. Comment créer chez les jeunes un désir de liberté, mais un désir de liberté les yeux ouverts, avec une conscience et une connaissance de ce qui se passe autour de soi. Donc forcément, une conscience politique. Mais pour moi, le lien entre le politique et le poétique est fondamental. Ça veut dire le politique sans la poésie est triste. Mais le politique, par le poétique, il permet du rêve, de l'imaginaire, de l'insolence parfois, mais une insolence très belle à voir.
Aja Razel, je me tourne vers vous maintenant. Vous êtes pour nous la jeunesse entourée là, de vieux barbons. Vous avez écrit votre premier roman, L'Envers de l'été. On pouvait deviner quelque chose, peut-être d'un rapport justement avec, avec le Maroc, même si ce n'était pas explicite. Et là, dans ce nouveau roman, vous nous emmenez loin, en dehors justement de la France et du Maroc. Enfin, la France un peu, mais on part au Caire, en Algérie, au Liban. Le roman s'ouvre sur Beyrouth presque, à Alep. Et vous tracez une autre carte un peu de la Méditerranée, de cette génération de gens qui commencent à rentrer dans le monde de façon très violente dans les années 2010.
Oui, je suis vraiment heureuse d'être là et d'être aussi avec des auteurs que j'admire. Et c'est vrai que moi, ma trajectoire, elle est aussi autour du fait de déplacer les frontières des attentes littéraires. Parce que j'aime énormément le Maroc aussi, j'avais besoin de jouer avec d'autres territoires et d'aller aussi me forger dans d'autres imaginaires. Et donc, ce deuxième roman, il partait du désir de raconter justement ces années 2010-2011. Moi, j'étais assez jeune, j'avais 17-18 ans, mais c'est une période qui m'a extrêmement marquée, vraiment dans ma chair, parce que j'ai développé ma culture politique à travers ça, et j'avais envie d'essayer de digérer en fait ce que ça avait pu être ces années-là, de façon romanesque, vraiment en inventant une histoire qui n'est pas la mienne. Et c'est là que j'ai rencontré le personnage des grands reporters, des journalistes de guerre. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que, en fait, le point commun entre mes deux romans, c'est d'interroger les narrateurs dominants, en fait. Il y a de l'intertextualité avec Camus dans mon premier, et sur ce besoin de situer à tout prix, quand on est un auteur du Sud, on veut que nos textes soient situés pour pouvoir parfois anthropologiser nos vécus. Et dans le second, il y a ce grand reporter qui est une figure qui m'a vraiment fascinée, de se dire comment on décide d'aller dans un pays qu'on connaît pas pour raconter une révolution en 2011. À quoi ça ressemble d'être dans un territoire nouveau, comment on se débat avec cette actualité qui va extrêmement vite, et à la fois qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on ne voit pas. Et donc, à travers ce personnage qui doute, on découvre aussi des narrateurs qui existent moins, en fait, dans les livres que moi j'ai lus, en tout cas. Et donc vraiment de croiser ces regards à la fois de ceux qui vivent dans un endroit qui parfois, effectivement, parce qu'ils sont trop près, comme le disait Mahi, ne le voient plus vraiment, peut-être de façon globale. Et en même temps, ils vivent sur place, donc ils ont un vécu avec des contraintes, avec de la violence aussi. Et comment ceux qui arrivent ont un regard aussi complémentaire d'émerveillement, de fascination, mais qui n'est pas sans faille.
Jean Lazel, pour raconter cette histoire, vous inventez, donc vous venez de le dire, ce personnage d'Alice. Et qui est elle-même double, qui porte un prénom qui est décalé par rapport à ce qu'on pourrait attendre de ses origines ethniques, entre guillemets, et qui va justement se passionner douloureusement pour des expériences de guerre, les unes après les autres. Et comment est-ce que vous avez choisi justement ce voyage? Pourquoi commencer à Beyrouth? Est-ce que c'était une question de chronologie, ou au contraire, est-ce que vous aviez commencé au plus loin pour la rapprocher ensuite du Maghreb?
Oui, c'est vrai que c'était... en fait, dans le sens de la fuite, il y a le premier sens immédiat qui est la fuite en avant. Donc c'est un personnage qui ressent l'appel du départ, d'ailleurs en lien avec Isabelle Eberhardt, qui est aussi une voyageuse qui m'a beaucoup intéressée, qui débarque en Algérie à la vingtaine, qui va se déguiser en homme pour entrer dans des confréries soufis, qui à la fois se révolte contre le colonialisme et extrêmement proche de Lyoté, donc pleine de contradictions. Et donc moi, c'est vraiment cet appel du départ que je voulais raconter, qu'est-ce qui fait qu'on décide du jour au lendemain de changer de vie. Et le point commun entre mes personnages, c'est vraiment cette pulsion de vie. Et après, la trajectoire en elle-même, elle est pas forcément consciente. On va dire que je voulais raconter l'Égypte, parce que moi, c'est un pays qui m'a énormément marqué. Tous les pays dont je parle, j'y suis allée, sauf la Syrie, d'où le passage assez elliptique. Et ce sont des pays, en fait, vraiment qui sont extrêmement propices à la fiction, parce qu'à la fois, en parlant la langue, on comprend énormément de choses, et en même temps, ce sont vraiment des altérités, même pour nous en tant que Marocains. Et moi, c'est ça qui me fascine, c'est vraiment ce moment, d'ailleurs, que Céline décrit dans Le Voyage, qui dit ce moment où les habitudes du pays précédent vous abandonnent avant que celles du pays d'arrivée ne vous aient encore abruties. Et vraiment, cette liminalité-là, moi, je pense que mon écriture, elle se situe à cet endroit.
Hajar Hazel, c'est aussi Le sens de la fuite, c'est aussi un roman politique. En 2011, c'est les révolutions arabes, le printemps arabe. Vous nous dites que pour votre génération, ça a été un moment plein d'espoir, mais vu depuis aujourd'hui, c'est-à-dire le moment où vous écrivez Le sens de la fuite, c'est aussi le récit d'un gigantesque échec. Soyons clairs.
Alors, justement, en fait, moi, je pense qu'une des impulsions d'écriture de ce roman, c'est la sentence vis-à-vis des printemps arabes. Ce besoin, en une génération, de dire si ça a réussi ou ça a échoué, qui a un besoin terriblement humain, et qui, en même temps, moi, je trouve, est forcément impossible, puisque on voit aujourd'hui en Syrie Bachar al-Assad s'en est allé. Enfin, il a été chassé par la révolte populaire. Et donc, moi, je pense que ce sont des graines, en fait, qu'on sème. Et c'est très intéressant, parce que moi, pour revenir à 2011, mon roman, d'ailleurs, sort le 20 février. C'est pas moi qui choisis la date, mais la date m'a choisi, puisque c'est le jour de la révolte, en fait, qui a eu lieu au Maroc en ces années-là. Et je pense que c'est un moment qui m'a forgé vraiment de façon très profonde, parce que j'ai fait des choses politiques sans mettre le mot politique dedans, d'une part, parce que j'ai assisté à des universités d'été où on prenait les articles de la constitution marocaine, on essayait de les analyser. Donc, j'étais extrêmement jeune, donc je le faisais sans toute la conscience qui va avec. Mon entourage aussi d'aujourd'hui est relié à cette période, mes amis journalistes, des amis militants, des amis entrepreneurs. Et à la fois, et c'est là que tout ce que vous disiez a beaucoup résonné, c'est que j'ai compris pourquoi mes parents m'avaient peut-être donné en héritage une sorte de rapport contradictoire au mot politique. Un mot dont il fallait se méfier, un mot c'était vain de s'engager dans une carrière politique. Et j'ai compris pourquoi. J'ai compris aussi de quoi on hérite. Les révoltes du pain à Casa, ma mère y était. Elle me le raconte un jour en me disant il y avait des chars dans la ville. Et le lendemain, on dit les historiens, ils exagèrent un petit peu quand même. Franchement, ça allait, c'était pas horrible. Donc, cette espèce de rapport un peu de révolte et d'oubli en même temps. Et comment on négocie avec et comment, en fait, on peut passer du rire aux larmes. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et je voulais aussi, au-delà de justement poser une sentence, de montrer à quel point ça avait été vivant. Et j'espère que ce roman restitue la vivacité de ces années. Et aussi de montrer effectivement les limites, la question des lignes rouges, des journalistes locaux qui est au cœur de mon roman. Et peut-être aussi montrer que ce sont des graines qui sont semées, qui nous marquent dans nos chairs, même quand on n'avait pas les outils politiques pour les comprendre. Et que c'est pas terminé, que en fait ça ne se fait pas en une génération et qu'il faut avoir l'humilité aussi de poursuivre le chemin, de transmettre aussi à notre tour. Et voilà, donc ça c'est vraiment important pour moi.
Hajar, le sens de la fuite, c'est aussi une façon pour Alice de se perdre et de s'oublier un peu dans les problèmes des autres, d'aller de chaque fois de plus en plus de l'avant sans vraiment s'intéresser à elle-même. Et c'est un peu ça le quid, on va dire, la question du récit. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'un peu, pas triste, mais en tout cas d'un peu compliqué dans cette idée que le journalisme, finalement, se détourne de son objet principal, qui devrait être celui qui est en train de nous écrire?
Oui, et moi c'est pour ça que ça m'intéresse, en fait, d'avoir des narrateurs qui s'interrogent sur leur propre positionnement. Et je pense que quand on écrit sur des territoires minorisés aussi en littérature, je trouve que cette question, pour moi, elle est obsédante. Qu'est-ce que je rate? Qu'est-ce que je comprends? Et donc, ce personnage, il me permettait d'avoir accès au doute, de gratter le vernis du mythe des grands reporters aussi, qui sont très mythifiés. Il y a toute une génération où c'était vraiment beaucoup d'hommes. Là, c'est une femme qui peut-être a un rapport un peu aussi d'adrénaline, etc. Et de donner accès au doute, donc d'humaniser aussi ces narrateurs dominants en essayant de montrer à quel point ils sont humains. Et donc, par exemple, je tenais énormément à ce qu'elle puisse dire « Je n'ai rien compris à la Syrie ». C'est une phrase qui est difficile à prononcer pour des journalistes, et les gens que j'ai interviewés me l'ont dit. Et je trouve ça extrêmement important qu'on puisse aussi donner à voir les limites de ce qu'on peut comprendre sur un territoire, tout comme nous, en tant que romanciers, on ne peut pas tout à fait tout inventer, ou en tout cas, il faut sans cesse se demander jusqu'où on peut aller pour raconter les histoires des autres. Et la question de la douleur et de... Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué de Suzanne Sontag qui s'appelle « Devant la douleur des autres ». Et c'est vraiment... Ce qui m'a intéressée, c'est... Qu'est-ce qu'on fait quand on a vu autant de gens en souffrance et comment ces douleurs font écho aux nôtres? Est-ce qu'on peut vraiment les oublier? Et aujourd'hui, à l'heure où il y a des guerres en Ukraine, à Gaza, on ne peut pas ne pas penser à cette question. Pensez aussi que, par exemple, à Gaza, aujourd'hui, les journalistes ne peuvent pas s'y rendre. Donc ça nous dit quelque chose sur qui raconte et qu'est-ce qui n'est pas raconté. Et alors j'ai commencé ce roman en 2019, donc c'est vrai que l'actualité m'a rattrapée. Mais au fil de l'écriture, j'ai évidemment pensé aussi à ces questions-là.
Raja Hazel, on l'a dit tout à l'heure, Alice se rapproche de plus en plus de l'Algérie. Une grande partie du livre, la grande affaire du livre, c'est quand même justement l'Algérie. L'Algérie, dans les années 2011-2013, c'est l'embryon d'un mouvement politique qui ne se produit pas, mais qui avance quand même vers quelque chose, un espoir. Et tous ces terrains, que ce soit l'Égypte, l'Algérie, vous les mettez en texte avec des chansons. Vous aidez de chansons populaires, certaines très anciennes, d'autres plus récentes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a vous aussi un peu permis de voyager à la place d'Alice ou avec elle dans les chansons ?
Complètement. Bah, en fait, il y a une expérience qui a été très marquante pour moi en 2013, c'est qu'on a créé un web magazine culturel en lien avec les printemps arabes d'ailleurs, donc des street artistes égyptiens qui étaient sortis dans la rue Mohamed Mahmoud et qui taguaient et qui écrivaient un peu le journal de la révolution en version visuelle, des rappeurs tunisiens, une chanteuse comme Amel Matlouthi. Donc ces musiques-là, en fait, c'est les musiques de ma génération en quelque sorte, et je voulais les faire exister dans ce roman. Et il y a vraiment cette idée d'introduire les cultures populaires. Vous avez parlé de musique, il y a aussi les chants d'ultra. Et les ultras, c'est souvent vu comme des hooligans. Et en Afrique du Nord, c'est une vraie culture populaire extrêmement contestataire. Les ultras vous citent du Orwell, Chambre 101, sur leur tifo. Les mères de famille chantent parfois, comme en Algérie, ou Oulad Baja, donc un hymne révolutionnaire où il est question de drogue. Moi, j'adore ces circulations, en fait, que peuvent permettre les cultures populaires. Et donc, je voulais les faire entrer dans un livre de la collection blanche de Gallimard.
J'allais venir, justement, parce qu'il y a quelque chose d'un peu... Alors, ce n'est pas une contradiction, mais c'est peut-être justement un mouvement très politique que de se dire que le monde arabe et ce monde arabe-là, populaire, parfois violent, révolutionnaire en tout cas, peut entrer dans cette collection qui est aussi celle du patrimoine des lettres françaises.
Oui, complètement. Non, c'est vraiment quelque chose de conscient. La question de l'oralité m'intéresse. C'est quelque chose que je veux continuer à creuser, d'essayer de se rapprocher au plus près de la langue des personnages de façon à la restituer. C'est des questions extrêmement complexes parce que c'est des questions d'une œuvre et on ne résout pas ça en un livre. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse aussi, c'est peut-être de faire se rencontrer des personnages dont on n'associe pas les parcours. En fait, moi, ce roman, il a commencé avec l'idée qu'un grand reporter qui veut devenir journaliste de guerre et un sans-papier, il y a quelque chose qui les unit, en fait. C'est juste que socialement, on ne les met pas du tout au même niveau. On n'imagine pas... c'est très intéressant. D'ailleurs, les lecteurs me rapportent des choses qui m'interpellent. À un moment, il y a un lecteur qui m'a dit on a peur que le sans-papier lui fasse quelque chose à ce personnage, alors que c'est quelqu'un qui va la sauver, sans trop en dire. Donc ça interroge aussi ces questions de position sociale, de qu'est-ce qui peut être apprécié chez quelqu'un qui est grand reporter, qui se rend sur des terrains, et qu'est-ce qui n'est pas vu dans la trajectoire d'un sans-papier qui, en fait, doit redoubler d'intelligence aussi pour s'adapter, pour apprendre, pour trouver du travail. Et donc moi, c'est question de mettre au même niveau des récits de fuite, justement, mais qui partent de pulsions différentes, de mettre l'exil et la fuite au même niveau aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et alors, décaler les frontières pour, par exemple, permettre à des lecteurs marocains et pas que de se rendre en Algérie par la fiction, puisqu'aujourd'hui, nos deux pays voisins ne se parlent pas. Et moi, pour moi, l'intérêt de la fiction, c'est ça, c'est de déplacer ces frontières entre ce qui est la culture légitime, la culture dite populaire, les classes sociales. Enfin, dire, c'est d'essayer d'échapper, en tout cas, modestement, à ces logiques de domination, le temps d'une histoire, en fait.
Et Raja Hazel, logique de domination aussi, la position des femmes, parce que évidemment, Alice, c'est une femme et qui est une journaliste de guerre. Et là, on sait qu'il n'y en a pas beaucoup.
Oui, complètement. Alors ça, c'est vrai que c'est un choix. Là, je continue à écrire avec l'idée de quand même avoir des personnages principaux qui sont des femmes. Il y a bien sûr des hommes. Dans ce roman, il y a Elias qui lui est du coup ce sans-papier qui est oranais et plein de vie. Mais je pense que ça m'intéresse de continuer à raconter ces personnages. Pareil, que j'aimerais être plus, j'aimerais qu'ils existent plus en littérature. Il y a un passage d'Aurélien d'Aragon qui m'a vraiment énormément marqué. Il dit que la quête de l'absolu, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les âmes un peu élevées, parce qu'ils vont inventer des choses, ils vont s'acharner par le travail à essayer de trouver des choses, à les raconter, et qu'on le voit, et que pourtant ils touchent toutes les âmes, y compris des mères de famille qui, en frottant le mur à la recherche d'imperfections, vont oublier le lait qui file et la maison va brûler. Et moi, ça m'a toujours marqué parce que comme les deux auteurs qui sont à côté de moi, j'ai été élevée par des femmes extrêmement puissantes, contradictoires, tyranniques et en même temps qui m'ont énormément transmis, même quand elles étaient analphabètes, par exemple. Et c'est vraiment, c'est une quête, je trouve, de raconter cette puissance des femmes en littérature.
Le centre, le cœur peut-être du sens de la fuite, c'est la ville d'Oran, qui est extrêmement bien décrite avec ses différents personnages, les brûleurs, ceux qui veulent partir, ceux qui restent là à attendre, à tenir les murs de la ville pour pas qu'elle s'effondre.
Les hittistes.
Et il y a quelque chose, peut-être une profonde espèce de mélancolie méditerranéenne qu'on trouve dans cette ville. Est-ce que c'était un peu la ville de cœur pour l'écriture du sens de la fuite?
Bah, toutes les villes qui sont dans ce roman sont des villes de cœur, mais je dirais que mon rapport avec l'Algérie, il est plutôt autour d'Alger. D'ailleurs, il y a une petite révélation, puisqu'en fait, elle est d'origine oranaise, mais bon, je ne vais pas trop en dire. Mais Alger, c'est une ville qui m'a énormément marquée, parce que quand je l'ai découvert, pour moi, c'était un mélange entre Marseille, Tanger et Paris. Et puis cette ville sur une baie magnifique qui rivalise avec la baie de Rio, je trouve. Et la deuxième ville de cœur dans ce roman, c'est le Caire. Et comment ne pas résister à juste la folie, la beauté, l'intensité du Caire. Et je pense qu'au fond, parce que moi-même, en faisant ce voyage, je suis partie sur la route en 2015-2016, donc pour un projet de journalisme culturel dont j'ai parlé tout à l'heure. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur avec ces deux pays, l'Égypte, parce que c'est l'Égypte et que c'est un pays de culture immense, mais aussi l'Algérie, parce que j'ai vraiment eu l'impression, en tant que Marocaine, de découvrir ce fameux voisin qui habite en face de vous, mais auquel vous n'avez pas le droit de parler, parce qu'il y a une énorme mur qui empêche ce dialogue. Et je me suis dit, mais pourquoi on m'a caché ce voisin? Pourquoi j'ai pas vu autant de films algériens que j'aurais pu le voir? On a cette langue voisine, et voilà, moi, j'ai un rapport à ce pays qui est très fort.
Jean-Razel, on a l'impression que dans ce roman, d'un coup, vous montez justement sur un promontoire à Tanger, et vous regardez vers l'est, et puis vous allez jusqu'en Syrie, puis vous en revenez. Est-ce que ça a un sens pour vous, le monde arabe, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? Est-ce que vous y sentez un peu chez vous, quand même?
Mais je pense qu'en travaillant avec ce média pendant 7 ans, de fait, mes amis, en fait, reflètent aujourd'hui cette diversité de pays. J'ai des amis de tous ces pays-là parce que post-2011, en fait, on s'est rencontrés en ligne, on s'est rencontrés ensuite dans la vraie vie. Donc oui, je pense que mon entourage ressemble en fait à la vision que vous venez de dépeindre. Et en même temps, et en fait, tout le projet d'un roman ou même des initiatives qu'on a pu faire avec ce média, c'est surtout de montrer la complexité, de montrer ce qu'on ne voit pas quand on parle de monde arabe. On voit pas les Nubiens, on voit pas les Amazirs, on ne peut pas voir toute la culture Hassani du désert marocain. Et donc, je crois qu'il n'a de sens que si on accepte que ce sont des cultures au pluriel, et qu'il y a 1000 dialectes, et qu'il y a 1000 langues. Et c'est pour ça que j'aime avoir des personnages qui doutent, parce que ça me permet aussi de toujours vraiment me méfier des narrateurs qui ont tendance à globaliser. Donc à la fois, je m'y sens chez moi, et en même temps, je me sens chez moi à plein d'autres endroits. Et il faut se méfier aussi des cultures, enfin des généralisations monolithiques sur le monde arabe. Donc les mondes arabes, les mondes méditerranéens, avec énormément de cultures qui ne sont pas toujours visibles dans le terme arabe, notamment. Donc ça, j'y tiens beaucoup.
Drisque, je vous vois opiner du chef. Le monde arabe, c'est quelque chose aussi pour vous important, l'espace méditerranéen de la rive sud et vers l'est?
Oui, et j'abonde dans le même sens par rapport à la question de la pluralité, la question de l'effacement des minorités qui peut, sous cette façade unifiée de ce qu'on appelle le monde arabe, ne pas être prise en compte. Mais en même temps, je suis très très déçu à cause de ce qui se passe actuellement à Gaza, de la désunion du monde arabe et des intérêts à... des intérêts divergents géopolitiques et économiques qui font qu'aujourd'hui, l'une des questions qui, pour moi, est une boussole éthique, qui est la question de la justice humaine dans ce territoire de Palestine, est malheureusement traitée de manière honteuse par plusieurs élites de ce monde arabe.
Vous êtes justement trop géopolitique et peut-être pas assez humaine ou morale. Mahi Benbin, le mot de la fin, c'est ben pour
moi,
vous.
Le mot de la fin, c'est quand je j'écoute la fraîcheur de cette petite à côté de moi, je me dis que le Maroc se porte bien. L'intelligence, les combats, on s'est dit la relève est assurée. Ça, c'est le mot de la fin que je...
C'est gentil,
merci. Et Arzel, vous, comment est-ce que vous prenez ça? Est-ce que pour vous, vous vous sentez justement, parce que vous écrivez en français, vous enseignez aujourd'hui en France, je crois.
Au Maroc aussi.
Est-ce que pour vous, c'est important justement de conserver ce côté marocain?
Complètement. Et c'est, il y a tellement d'histoires. Enfin, moi, je rejoins Mahi, ça fourmille d'histoires. Et là, je me rends à Tanger de façon plus précise pour la suite. Donc, quand même, les Marocains me le réclament depuis le premier. Donc, j'ai hâte de me plonger aussi dans ce prochain roman qui sera très localisé, mais un petit peu fantastique.
Ben, merci beaucoup, Mathias, à tous les trois. Cette conversation littéraire était préparée par Laure-Hélène Planchet avec Olivia Branger et Johanna Gabric à la technique. La préparation en était assurée par Aurélie Marcet. Vous pouvez podcaster l'émission sur le site de France Culture ou l'appli de Radio France. Bon week-end sur France Culture.
Vous écoutez France Culture.
Une heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale.
Zoé Svez.
On se retrouve donc chaque samedi pour une émission toujours libre de tous les genres, de tous les récits, de tous les portraits, des grandes voix aux genres inconnus, des métiers cachés aux albums cultes, un récit toujours subjectif et non exhaustif avec un maître mot, le plaisir.
La série musicale. Chaque samedi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Viens te mettre près du feu.
Nous sommes à deux pas du cercle polaire. Mais, heureusement, chez le compteur danois Andersen, on trouve toujours de quoi se réchauffer. Des cheminées, des poêles à bois, des chalets confortables, des brioches sorties du four et des amis sûrs.
Dehors, il fait un froid épouvantable.
La Reine des Neiges, un conte de Hans Christian Andersen avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Réalisation Laure Egorov, à découvrir et partager sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Expérience. Votre nouvel espace pour l'aventure radiophonique.
Je veux rencontrer Sophie Kahl. Ben, Sophie Kahl, en fait, c'est une des premières artistes qui m'a donné envie de devenir moi-même artiste, qui est une sorte de guide pour moi, comme une sorte de mentor.
Allô ?
Sophie Kahl ? Bonjour, c'est Hélène de France Culture.
Oui.
En 2006, vous installez une cabine téléphonique en forme de fleur au milieu du pont Garigliano, entre le 15e et le 16e arrondissement parisien. Et à l'intérieur, quand on entrait, on pouvait lire « Mon nom est Sophie Kahl, vous êtes dans ma cabine téléphonique ». Sans jamais l'avoir rencontrée, c'est quelqu'un d'important. Et en fait, la rencontrer, pourquoi j'ai envie de la rencontrer, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu flou dans ma tête. C'est une envie un peu folle. J'ai envie de la rencontrer parce que je pense que pour moi, ça serait une manière de vérifier quelle personne il y a derrière l'artiste.
L'artiste qui depuis 25 ans fait de sa vie.
Je sais pas, il y a une sensibilité, il y a une volonté chez elle aussi de raconter des histoires et peut-être comme moi aussi de faire de sa vie une fiction, même si elle
1980, elle croise un inconnu.
J'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait la même approche là-dessus, dans le sens où elle va peut-être avoir cette volonté de plus justement fictionnaliser, plus scénariser, un peu comme les enfants, quoi.
Le départ, c'est l'envie de vivre des situations, des expériences. Donc c'est la mise en scène, la provocation. Et ensuite, les mots et les photos, c'est pour faire un rapport.
Tu m'as vu ?
Les mots.
Sophie.
Sophie. Tu m'as vu ?
Sophie. Tu m'as vu ? Tu m'as vu ? Sophie. Tu m'as. Alors en fait, pour la rencontrer, j'ai